RCF. Ouvrons les guillemets. Gilles Laporte en compagnie de Gérald Tenenbaum. Bonjour, cher Gérald Tenenbaum.
Bonjour, cher Gilles.
Heureux de vous accueillir. C'est un vrai bonheur de vous accueillir, d'autant plus qu'on va parler d'un roman passionnant qui vient de sortir et qui s'intitule de façon très très énigmatique « Par la racine ».
Tout à fait.
L'énigme commence avec la couverture. Avec
oui,
le titre.
Avec le titre et avec la couverture.
Et elle ne fera que se développer sur les 180 pages, 90 pages de ce roman. D'abord, parlons de vous, cher Gérald. Vous êtes mathématicien, originaire de Nancy.
Oui.
Vous n'avez jamais quitté Nancy.
Si, j'ai quitté Nancy.
Pour des études.
Non, pour mon premier travail aussi. J'étais à Bordeaux, au CNRS.
Vous avez osé faire ça.
Oui, une dizaine d'années.
Donc, vous avez quitté Nancy pour Bordeaux, pour votre travail au CNRS.
Oui.
Mais vous avez fait vos études à Nancy.
Oui.
Et puis, on partit à Paris, à Polytechnique.
Tout à fait.
Vous êtes sorti de cette filière universitaire très, très riche, avec la passion de l'enseignement, du partage, l'invitation faite à l'autre à découvrir ce qui vous passionne vous-même.
C'est vrai. Et l'enseignement est quelque chose que j'ai beaucoup aimé.
C'est au passé que vous en parlez ?
Oui, parce que là, je suis professeur émérite, donc je n'enseigne plus. Je continue la recherche, je fais des séminaires, je dirige encore des thèses, mais je n'enseigne plus directement.
Plus directement, mais
oui.
Tout de même.
Enfin, quand même, oui, je dirige aussi des mémoires. Enfin bon, il y a toujours une part d'enseignement.
Donc c'est toujours au présent ?
Oui, on va dire ça.
Quand on a cette passion qu'on a nourrie toute sa vie professionnelle, on ne la quitte pas comme ça du jour au lendemain.
Non, bien sûr.
On disparaît avec. Et elle disparaît avec celui qui la portait.
Oui.
Sauf si elle a fait des petits chez ceux qui ont été formés.
Voilà, il faut espérer. Il faut espérer ça.
Espérons-le surtout par les temps qui courent. Donc, cher Gérald Tenenbaum, vous êtes originaire de Nancy et vous avez enseigné donc pendant très longtemps les mathématiques et vous êtes chercheur en mathématiques. Vous avez notamment travaillé sur des problèmes, comme on dit en calcul à l'école primaire, sur des problèmes qui sont posés par de grands mathématiciens. Je pense notamment à la conjecture de Paul Hardock. Qu'est-ce qu'une conjecture et pourquoi s'attache-t-on à la résoudre ?
Alors, dans le travail mathématique, il y a des problèmes qu'on sait résoudre, et puis il y en a d'autres sur lesquels on bute, mais pour lesquels on a tout de même l'intuition d'une solution. Et une conjecture, c'est quand un mathématicien se pose un problème ou travaille sur un problème posé par d'autres, il a l'intuition de la solution, mais il ne sait pas la démontrer. Et dans ces cas-là, c'est une conjecture et qui donne, je dirais, du grain à moudre aux autres mathématiciens. Alors certaines conjectures sont confirmées, d'autres sont infirmées, c'est-à-dire il peut très bien se passer que le mathématicien en question ait une intuition qu'il conduise dans la mauvaise direction, et ça arrive, c'est même assez fréquent.
Qu'elle mène dans un cul-de-sac.
Ou que la réponse soit opposée
à celle qu'il espérait
ou à celle qu'il envisageait. Et donc, les conjectures, c'est l'ensemble de toutes les conjectures mathématiques, c'est comme un immense programme de travail pour les mathématiciens du monde entier. Et c'est une très bonne chose pour un jeune mathématicien d'entrer dans ce monde avec la résolution, positive ou négative, peu importe, d'une conjecture.
On est donc là au cœur de la recherche pure.
Tout à fait, oui, tout à fait.
Et ça vous a tenu pendant très longtemps.
Oui, ça me tient toujours. Je continue toujours à faire de la recherche et ça m'occupe une bonne partie de mes jours et de mes nuits. Et c'est vrai que j'ai travaillé pendant des années sur certaines conjectures qui m'ont accaparé de manière terrible, au point que à une époque j'en parlais comme d'une prison mentale, c'est-à-dire que quand on travaille sur une conjecture, on est comme amoureux du problème, et puis plus rien d'autre n'a d'importance, et ça peut poser même des difficultés dans la vie personnelle.
Comme une addiction ?
Oui, on peut dire ça, comme une addiction, ça vous empêche de dormir, ça vous réveille, ça vous accapare toute la journée. Et puis, en particulier, après ma thèse, j'ai travaillé pendant 5 ans sur une conjecture de Paul Erdős, un grand mathématicien hongrois, né en 1913 et mort en 1996. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui serait arrivé dans ma vie si je n'avais pas fini par la résoudre. Parce que renoncer...
C'est à ce point-là.
Oui, renoncer, c'est très difficile.
Ça devient vital.
Oui, ça devient vital et renoncer est quelque chose de... Enfin, auquel on a beaucoup de mal à se résoudre. Oui.
J'aurais tendance à dire, et la littérature vous a permis d'échapper à ce devenir un peu compliqué du chercheur en mathématiques, mais je ne dirais pas ça. Je dirais qu'au contraire, elle en est le prolongement.
Oui, et c'est, disons que pour moi, la littérature et les mathématiques, c'est comme marcher sur deux jambes. En mathématiques, comme en littérature, la question de la structure est essentielle. Je veux dire, on cherche à structurer des connaissances en mathématiques et on cherche à structurer un texte et une histoire en littérature. Donc ça c'est pour ce qui est parallèle et ce qui est différent c'est que en mathématiques on travaille sur un problème qu'on ne sait pas résoudre, ben je dirais qu'on est dans la nuit, on est dans l'obscurité, on cherche à fabriquer des outils pour résoudre le problème. Et dans cette conjecture dont je parlais tout à l'heure, sur les 5 ans, j'ai passé 4 ans et demi à fabriquer des outils. Le problème, c'est que tous les outils que je fabriquais semblaient aller dans l'autre direction, et jusqu'à ce que je comprenne finalement comment les choses pouvaient fonctionner. Donc les mathématiques vont de l'obscurité à la lumière, et pour moi, je dirais que la littérature va de la lumière à l'obscurité. Il s'agit de partir du réel, de partir du jour, et puis de jeter un voile. Et derrière ce voile, on va suggérer des choses que les mots sont impuissants à dire.
Mais que les mots invitent à aller illuminer à leur tour.
Oui, c'est-à-dire on va dire tour. Avec des mots ce qui est au-delà des mots. Quoi. C'est ça vraiment l'essence, pour moi, l'essence de la littérature.
Donc vous êtes en opposition avec l'évolution actuelle de la littérature qui, au contraire, tente de nous plonger dans l'hyper-réel, j'allais presque dire.
Ah oui, complètement. Je suis très, très triste de voir cette évolution de la littérature française. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est plus présent dans la littérature française que dans la littérature mondiale. Cette incarnation obligatoire de l'auteur en sa personne, cette première personne qui est également obligatoire, ça m'est arrivé même sur des salons de voir des gens ouvrir un de mes livres et le refermer en disant oh, c'est même pas la première personne. Donc cet ancrage au réel qui leste l'imaginaire de semelle de plomb.
Oui, c'est très difficile à vivre aujourd'hui quand on s'intéresse de près à la littérature, mais c'est un courant qui nous vient peut-être de l'Ouest, hein, des États-Unis et du monde anglo-saxon en général.
Oui, oui, peut-être, mais c'est vrai que...
Avec tous les phénomènes de wokisme, les constructions de la langue,
Voilà.
La langue est devenue le martyr de notre culture.
Voilà, et on la triture, on la malaxe. Et...
Alors que vous la soignez, c'est une langue magnifique. Je ne dis pas ça pour vous passer un coup de pommade, vous le savez, cher Gérald
bien
Tenenbaum,
sûr,
mais c'est la réalité. D'ailleurs, pour le prouver, je vais lire la première page de votre roman, dont je rappelle le titre, « Par la racine » et publié par les éditions Cohen et Cohen. Cela a débuté comme un tourbillon et à présent c'est la tempête. Le tourbillon, on peut le laisser vous emporter. Il paraît que s'en sortir ainsi est possible, même avec la honte, mais vivant. Lâcher prise, se résigner à toucher le fond et marcher sur le fond. Mais avec la tempête, aucune échappatoire. Il faut lutter, l'affronter. Il n'y a que ça, face à face. Le vent s'est levé une demi-heure en arrière, ou peut-être plus, ou peut-être moins. Le temps de l'orage n'est pas mesurable par les humains. Quant au temps humain, il est insaisissable, on le sait bien. Le sablier ne prévient pas, on ne sait rien. S'écouler est dans la nature du sable. Chaque grain est indifférent au glissement de son voisin, ce sont tous les grains ensemble qui font le flux. Qu'importe. Son orage à lui n'est pas celui qui bat la campagne et qui ricoche sur les vitres. 20 et quelques années plus tôt, son aïeul avait courbé les futaies et déraciné les chênes. Elle avait surpris tout le monde au tournant du millénaire. Fin décembre, on attendait la panne générale, la colère de Dieu, la perte du nord magnétique ou le déferlement du vent solaire. Ce fut Lothar le 26 et Martin le 27. Le plan hors sec, le président à la télévision et la destruction aux trois quarts des Mirabelliers lorrains. C'était Handel, Salomon, l'arrivée de la reine de Saba, par l'Académie Saint-Martin-des-Champs, direction Canette Silito.
Ouvrons les guillemets avec Gilles Laporte sur RCF.
Et en compagnie de Gérald Tenenbaum pour son remarquable livre « Par la racine », dont le titre à lui seul est déjà toute une énigme. Donc voilà, vous avez glissé des mathématiques à la littérature. Vous êtes en même temps dans les mathématiques et la littérature.
Oui.
À ce point que je vais vous poser une première question, cher Gérald. Êtes-vous kabbaliste ?
Alors, j'ai lu des livres sur la Kabbale. Oui, je ne suis pas kabbaliste. Je n'invoque pas les pouvoirs de l'arrière-monde, mais je me suis beaucoup documenté sur la Kabbale pour plusieurs de mes livres, dont Reflet des jours mauves, qui est paru il y a quelques années, et puis l'affaire Pavelstein, paru il y a 2 ans, et celui-là. Oui.
Alors, si je vous pose la question, c'est parce que vous faites une relation étroite entre le nombre, le chiffre et la lettre.
Oui, tout à fait. Oui. Alors ça, c'est vraiment c'est le domaine privilégié de la Kabbale, puisque la Kabbale considère que l'invention des lettres et donc de l'écriture qui permet la pérennisation de la pensée, c'est la plus grande réalisation de l'esprit humain. Les lettres sont quelque chose, pour le kabbaliste, c'est quelque chose de sacré et d'extraordinaire. Et puis, la Kabbale attribue aux lettres des valeurs numériques. Et donc, elle donne, quand on additionne les valeurs numériques qui composent un mot, eh bien, on obtient la valeur numérique du mot. Et une fois qu'on a ces nombres, eh bien on peut évidemment jouer avec les nombres, ce qu'on ne peut pas faire directement avec les lettres. On peut les additionner, les multiplier, les soustraire. On peut faire des tas d'opérations. Et de ces opérations, eh bien, on peut déduire des similarités, on peut déduire des sortes de théorèmes ou de conjectures sur le sens profond de ces mots. Pour donner un exemple, eh bien, le Messie a la même valeur numérique que le serpent. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'ils ont la même valeur ? Ou est-ce que ça veut dire que l'un est capable de combattre l'autre, qu'il y a un équilibre dans le monde entre les deux, etc. Donc, ce jeu entre les lettres et les nombres est vraiment constitutif du travail du kabbaliste.
Et est-ce que vous vous en inspirez pour bâtir une intrigue de roman ? Est-ce que c'est aussi une méthode, une stratégie d'auteur que celle que vous venez de décrire ?
Non, pas directement. Je préfère. J'ai utilisé, par exemple, dans la Kabbale, il y a l'arbre de vie, et j'ai utilisé dans un de mes romans, Les reflets des jours mauves, le livre est structuré selon les sphères ou les séphirotes de l'arbre de vie. Mais je n'ai pas utilisé directement des valeurs numériques de mots, mais j'ai mis en place des chercheurs qui avaient une attitude semblable, puisque dans le roman dont je parle, c'est un médecin qui cherche à décoder le génome, et donc il y a une sorte de parallèle qu'on peut faire entre le fait de décoder le génome et le fait d'attribuer des valeurs aux lettres. Mais je n'utilise pas ça direct, je l'utilise comme inspiration, mais pas comme méthode de travail.
Donc on entre dans ce roman par la vie de quelques personnages qui paraît simple au départ. Le père est mort dans un EHPAD.
Oui.
Le fils recueille une boîte, genre boîte à chaussures, dans laquelle se trouvent des lettres, des cartes postales, des mots, des écrits, qu'il va étudier parce qu'il a le sentiment qu'elles vont peut-être lui apprendre quelque chose sur quoi ?
Sur son père, puisque c'est la seule chose que son père a laissé. Finalement, il n'a pas laissé d'argent, il n'a pas laissé d'héritage. Il vivait dans un EHPAD, il n'y a pas de maison ou d'appartement à hériter. D'ailleurs, son frère, à un moment donné, dit c'est notre père est mort, c'est une perte sèche.
Il y a juste un livret d'épargne quelques milliers d'euros.
Même pas.
Et qui sont bloqués en plus par le notaire.
C'est ça, voilà. Donc, Donc il y a vraiment, il reste très peu de choses, et il reste cette boîte. Il y a une montre, qui effectivement le temps qui s'est arrêté, qui revient hanter le personnage, au point que les chapitres du livre sont tous par référence au jour de la mort. Donc on dit une semaine après, 3 mois après, 39 ans avant, etc. C'est on ne compte pas à partir d'une date d'une date fixe. On compte à partir d'une date fixe, mais cette date est particulière, puisque c'est le jour de la mort du père. Donc
et notre héros, d'ailleurs, pour bien le marquer, fixe la montre à son poignet.
Oui, il fixe la montre à son poignet. Il a la tentation de la remettre dans la boîte, et puis finalement non, il la reprend, et d'une certaine manière, le temps de son père va l'accompagner pendant le temps du deuil, qui dure, comme chacun sait, une année.
Et est-ce que le deuil a un parfum particulier ?
Alors... Il se pose la question, peut-on porter le deuil comme on porte un parfum ? Alors c'est vrai qu'on porte un parfum, une femme en particulier porte un parfum sur la peau, et ce parfum enveloppe, accompagne et d'une certaine manière protège. Et lui se pose cette question, est-ce que le deuil on peut le porter sur la peau ou est-ce qu'on l'a dans la peau ?
Je lis les 4 lignes qui concernent ce que nous venons d'évoquer. Clara, d'un baiser léger, vient lui effleurer le cou. Elle est enveloppée de son aura habituelle, fragrance poudrée, mystère féminin. Peut-on porter le deuil comme un porte un parfum ? Samuel rentre chez lui, à pied comme il était venu. Jacques lui avait bien proposé de leur accompagner, mais il a préféré marcher. Il les a quittés à regret. Lorsque la famille rétrécit, chaque membre devient plus précieux. C'est mécanique. La mécanique des sentiments obéit aux lois universelles. Que d'affirmations dans ces 4 lignes, 5 lignes.
Oui, c'est vrai. Oui, ce sont des...
Et des affirmations fondamentales, quasiment.
Oui, ce sont les pensées du personnage. Bon, je travaille, je construis mes romans souvent en focalisation interne. C'est-à-dire que... On est à la troisième personne, mais on sait ce qui se passe dans la tête d'un seul personnage, qui est le personnage principal. Les autres circulent autour de lui, et il se pose effectivement ce type de question. Peut-on porter le deuil comme on porte un parfum ? Et qu'est-ce que c'est que la mécanique des sentiments ? Et comment est-ce qu'elle peut nous permettre d'avancer et de nous réparer ?
La mécanique des sentiments, j'aime beaucoup cette expression.
Oui.
Vous en êtes le créateur ?
Ben, je crois, oui.
Bravo.
Enfin, je n'ai pas déposé. Hein.
Bravo. Et vous la démontez parfaitement, cette mécanique des sentiments. D'abord entre hommes, parce que ça démarre entre hommes, cette histoire. Mais très vite, on rencontre des femmes.
Oui,
heureusement. Et pas n'importe quelle femme. Et qui ne s'engage pas dans n'importe quelle voie non plus. Mmh. Hein. Est-ce qu'on peut dire que les femmes deviennent des initiatrices dans ce roman ? Des ouvreuses de voix ?
Oui, des ouvreuses de voix. Elles posent des questions que les hommes tentent de résoudre, mais l'inverse est vrai aussi.
We'll be right back. C'était Leonard Bernstein, c'est Leonard Bernstein, l'ouverture de Candide par l'Orchestre Philharmonique de Tokyo, direction Friedrich Haider.
Ouvrons les guillemets avec Gilles Laporte sur RCF.
Et en compagnie de Gérald Tenenbaum pour son roman qui vient de sortir aux éditions Cohen et Cohen, Par la racine. C'est une histoire d'homme, nous l'avons dit, cher Gérald. Ça démarre entre le père et le fils, la disparition du père, le fils qui tente d'éclaircir certains mystères. Et surgit une femme, Luce. Luce, la lumière.
Oui, tout à fait, la lumière, c'est celle qui va le conduire.
J'ai saisi l'intention tout de suite, bien évidemment.
Oui, mais il n'y a pas de meilleur lecteur qu'un écrivain.
Donc Luce surgit. Et que va-t-il se passer avec Luce ?
Eh bien, avec Luce, il va se passer beaucoup de choses, parce que Luce...
Mais il faut dire qu'elle fait un boulot un peu particulier, Luce. Elle est bibliothécaire d'un côté, mais surtout, elle est biographe, autobiographe, c'est-à-dire qu'elle écrit pour des gens qui la lui commandent la vie des autres.
Non, c'est Samuel qui écrit.
Ah pardon, c'est Samuel, bêtises.
Non, c'est Samuel qui écrit, qui est autobiographe pour les autres.
Et c'est Luce qui porte regards sur son activité.
Oui, Luce lui commande une biographie.
Voilà,
elle ambitionne un poste aux États-Unis, à New York, et elle a envie de... elle voudrait rehausser sa biographie, qui d'ailleurs, au fond, n'aurait pas tellement besoin d'être rehaussée. Mais enfin bon, elle a cette demande et elle demande à Samuel d'enquêter sur sa propre vie pour pétrir le vrai, pour façonner du faux.
Autre expression que j'aime, pétrir du vrai pour fabriquer du faux, façonner du faux. Est-ce que c'est ça l'essentiel du travail d'un autobiographe, écrire des mensonges ?
Alors,
c'est ce dont elle l'accuse d'ailleurs.
Non, elle l'accuse pas. Non, elle l'accuse pas de. Non. Elle lui demande au contraire de façonner une autobiographie imaginaire. Mais je crois que c'est le moment où il faut faire une différence entre le vrai et l'authentique. Et donc,
au cours d'un échange, il est obligé de lui préciser, lui, mentir pour mentir, autant le faire proprement.
Oui.
Donc c'est qu'elle avait bien tout de même cette impression que son boulot c'était de mentir, non ?
On emploie souvent l'opération mentir vrai,
ouais.
C'est-à-dire on ment, mais on dit la vérité,
oui.
Je dirais, et on dit quelque chose de peut-être plus authentique que si on restait cantonné à une vérité factuelle.
Donc Luce va le mener dans des zone qu'il n'avait pas imaginé au départ, au théâtre d'abord.
Oui, bien sûr, au théâtre où on joue la pièce de Chalomansky, le Dibouk, ce qui nous ramène à la Kabbale.
Lui croit au départ qu'elle l'invite à assister à une représentation théâtrale.
En sa compagnie, mais il y va tout seul.
Et pour cause.
Oui, bien sûr. Bon, il faut peut-être pas tout révéler plus. Oui. Mais c'est vrai que la pièce d'Ansky, le Dibouk, fonctionne un peu comme une scène de révélation dans les épopées antiques, quand le héros se retrouve aux enfers et voit se dérouler toute sa destinée, dont il n'est pas forcément d'ailleurs sûr que c'est sa destinée, sous ses yeux. Et donc la pièce, le Dibouk, le Dibouk, c'est dans la mythologie juive, dans la mythologie kabbaliste, c'est un phénomène par lequel l'âme d'un mort s'attache à un vivant. Le mot Dibouk vient d'un mot hébreu qui signifie attachement. Et une fois que cette âme est attachée au vivant, il est plus possible de la détacher. Et ce phénomène est maléfique, négatif, et il survient quand une faute a été commise, une erreur. Et dans la pièce d'Ansky, l'erreur, c'est d'avoir promis sur quelque chose qui n'existait pas encore, en l'occurrence la naissance de deux enfants qui étaient encore dans le ventre de leur mère respective. Et donc ça, c'est pour le D-Book. Et il existe un double dans la Kabbale qui est beaucoup moins connu. Alors le D-Book est connu parce qu'il y a un film magistral qui a été tourné par un certain Michal Wachinski juste avant la guerre, en 1937, et qui est considéré comme un des chefs-d'œuvre du cinéma yiddish. Donc le D-Book est très connu à cause de ça, en particulier à cause de ce film, de la pièce et d'autres occurrences. Le Libur est beaucoup moins connu. C'est aussi une forme d'imprégnation, mais qui est temporaire, qui peut se faire avec l'accord de la personne qui accueille et qui est toujours positive et qui permet à l'âme d'un disparu de terminer une tâche qu'il n'a pas pu accomplir de son vivant. C'est dans le cycle des âmes de la Kabbale.
Peut-on dire, puis-je dire, que ce roman Par la racine que vous venez de publier est un roman initiatique ?
Oui, en tout cas, certainement initiatique pour les personnages et peut-être aussi
pour le lecteur.
Inévitablement pour le lecteur, mais c'est vrai que le parcours initiatique des personnages, le parcours des personnages est initiatique et ils remontent à la fois, ils descendent de la Lorraine vers le sud, ils passent par Lyon, par Grenoble, par Marseille, par Gênes et finalement ils prennent le bateau, ils se retrouvent à Haïfa et ensuite dans un kibboutz israélien.
Et pas n'importe quel bateau, un porte-conteneur.
Un porte-conteneur, tout à fait, oui. Donc c'est sur lequel le frère de Samuel est lieutenant. Et donc, donc on a à la fois ce parcours matériel et puis un parcours vers la lumière où on remonte dans le temps. Donc à la fois on descend l'espace mais on remonte le temps et on arrive à retrouver une certaine lumière sur des événements qui sont restés obscurs dans la vie de l'un et de l'autre. Et ça, c'est vraiment une grande surprise pour le personnage de Samuel, puisqu'au départ, il pense qu'il va faire une enquête sur Luce, et il se retrouve à la fin à découvrir des choses de sa propre famille et de sa propre existence et de son propre père.
Je vais poser une question idiote. Vous m'autorisez ?
Il n'y a pas de question idiote.
Est-ce que c'est un roman autobiographique ? C'est-à-dire, est-ce que la part de vous-même, elle est doublement idiote, hein, est-ce que la part de vous-même dans ce roman est la plus importante de tout ce qui le compose ?
Alors, je pense que, on ne peut écrire de roman qu'à partir de sa propre expérience, mais le roman n'est pas plus autobiographique que d'autres.
Pour ce qui est de la recherche ?
Pour ce qui est de la recherche, pour ce qui est de la documentation.
Du questionnement permanent.
Du questionnement permanent, je crois que non.
Je l'ai reçu comme une invitation au questionnement.
Certainement, c'est tout à fait juste. C'est un questionnement et en même temps avec une sorte de philosophie que certaines choses doivent rester cachées, qu'il vaut mieux qu'elles restent cachées, et puis que d'autres vont affleurer petit à petit.
Thank you.
Debussy, Claude Debussy, Le vent dans la plaine, c'est le prélude, au piano Gordon Fergus Thompson.
Ouvrons les guillemets avec Gilles Laporte sur RCF.
Et en compagnie de Gérald Tenenbaum pour son remarquable, remarquable livre, j'insiste, Par la racine, publié par Cohen & Cohen. Il est plein de symboles, il n'est constitué que de symboles, j'allais presque dire, qui tentent de nous inviter à aller derrière le rideau, constater ce qu'est la réalité. Vous évoquez des sujets très très intéressants, vous évoquez Meister Eckhart, Maître Eckhart.
Oui.
Vous évoquez l'affaire Touvier.
Bien sûr.
L'affaire Paul Touvier. Oui. Vous évoquez le problème des migrants aujourd'hui.
Le problème des migrants et les migrants qui doivent conserver en particulier leur langue et leur nom.
Ils ont trois attributs essentiels, le vêtement, le mot et le nom, dites-vous. Oui. Et ça, ils doivent le garder absolument.
Et ça, c'était déjà dans l'enseignement de Rashi au Moyen-Âge.
Oui. Donc, nous sommes au cœur même des réflexions actuelles.
Oui.
Dans ce roman, et on finit par un symbole très fort qui est celui de ce vieux Giuseppe qui taille des marches dans le rocher.
Mm-hmm.
Il a taillé en 18 ans, je crois, combien de marches? C'est extraordinaire. Et tous les jours, il est là et il tape dans le rocher. Pourquoi? Où va mener cet escalier?
Il va mener à la mer. C'est-à-dire que ce Giuseppe a été marbrier toute sa vie. Il a façonné des pierres tombales pour établir les morts dans la maison du monde. Et puis, une fois qu'il a pris sa retraite, il a pensé qu'il avait comme une dette vis-à-vis des vivants. Et comme il est marbrier, comme il est tailleur de pierre, eh bien il s'est dit « je vais tailler des pierres dans les rochers du bord de mer pour aider les gens à descendre jusqu'à la mer ». Et personne ne sait qu'il le fait, il fait ça de manière totalement gratuite, et il s'est donné cette tâche d'aider les autres êtres humains à aller vers la mer.
J'y ai vu une sorte de mythe de Sisyphe inversé. Sisyphe se casse la figure en permanence parce qu'à chaque fois
il redescend.
Mm-hmm. Lui, donc il est reprécipité vers la mort. Mm-hmm. Alors que là, notre Giuseppe nous invite à descendre, mais vers la vie.
Oui, vers la vie, puisque l'eau c'est la vie. Bien sûr, oui.
Donc voilà tout ce qui se trouve dans ce roman et bien autre chose encore. En plus de l'énigme, parce qu'il y a une véritable énigme.
Oui, il y a une véritable énigme, puisque le grand problème de la vie de Luce, c'est l'identité de son père, qu'elle n'a jamais connue, et sa mère est morte sans le révéler. Ouais. Et donc, elle fait cette enquête, elle n'est même pas sûre à la fin qu'elle a envie de savoir, mais bon, l'enquête va la mener face à la vérité. Est-ce qu'elle l'acceptera ou non? Ça, c'est au lecteur de le découvrir.
Et la recherche pour le lecteur est passionnante. Et on tourne en plus autour de Lunéville, de Nancy, dans la région, avant de partir vers le Grand Sud.
Oui, c'est tout à fait.
Merci, cher Gérald de Tenenbaum. Je rappelle le titre de ce roman, Par la racine, publié par Cohen & Cohen, dont je recommande chaleureusement la lecture. Il est plein d'enseignements et d'invitations à la découverte de soi. Merci, cher Gérald. À bientôt.
Merci, Gilles.